1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, amis auditeurs, salut, bonjour Ariane.
Bonsoir Philippe.
Salut Ghislain.
Salut.
Bon bah ça y est, on est en mai, et comme le dit l'adage, en mai...
On fait ce qui nous plaît.
Voilà, c'est ça, donc...
On fait ce qui nous plaît,
et surtout sujet. Dimanche, on n'oublie pas d'aller voter. Vous pensez à ça?
Tout à fait.
Tout à fait, voilà, on dira pas pour qui, mais tout le monde le sait.
Oui, ma jolie.
Et en mai, SLP, on a choisi à nouveau de s'interroger sur une question qui nous paraît cruciale. Je te laisse la dire.
Moi,
Ariane, oui.
La révolution sexuelle a-t-elle eu lieu?
N'est-ce pas? On se pose la question.
Et c'est une question cruciale, tu veux dire.
Une question cruciale, entre autres. Alors, on va le faire sous différents angles. Et par exemple, pour cette première émission, on a choisi de s'interroger un peu sur le plaisir en général, anal, vaginal, et tout ce qu'on veut.
Mais d'un point de vue très sérieux, s'il te plaît.
Oui.
Scientifique.
Du point de vue P, G, et quoi d'autre encore?
Et bien, du point de vue I, puisqu'on a fait appel à des expertes.
Des expertes infirmières. Infirmière proctologue.
Voilà. Ouais, nous on est trop des écolos parce qu'on a recyclé une ancienne émission.
Ouais, mais qui valait son pesant de cacahuètes. Donc on s'est dit que c'était bien de rondelles.
Et on s'est exploration dit de la rondelle.
C'était bien de réutiliser ces sons, peut-être différemment, mais il reste d'actualité, en tous les cas, je le crois. Non?
Bah, je vois pas pourquoi ça aurait changé.
Donc, on lance un premier son où, en gros, ces infirmières qu'on avait rencontrées il y a de ça 2 ans et demi, pratiquement, je pense. Ouais. C'était à l'automne 2009. Ouais. Et elles nous faisaient de petits inventaires d'objets trouvés là où on sait.
Dans les trous du cul.
Alors, l'inventaire, une carotte, non. Concombre,
oui,
à peu près tous les fruits et légumes.
Tous les fruits et légumes oblongs.
Pas trop de cerises, bizarrement.
C'est vrai? Non.
Bizarrement, pas trop.
Non.
Concombre, carotte,
banane.
J'ai eu des patates douces. Le bouchon. Ah, moi j'ai eu pour le jour de l'an le bouchon.
Le bouchon.
De champagne.
Okay.
Avec la ficelle au bout pour le récupérer, mais la ficelle a cassé. Donc, le bouchon est resté.
La bombe de déo. La
oui.
Bombe de déo. J'ai glissé dans la douche et je suis tombée sur ma bombe de déo. Voilà. Les gens glissent beaucoup, hein. C'est dangereux les salles de bain. Mettez des tapis
anti-dérapant.
Ah ouais, des chaussons.
Okay.
Parce que c'est, moi, on m'a raconté une boule de neige, mais bon, ça, je sais pas si c'est vrai, avec le Père Noël sous la neige.
Des neigiers, tu veux dire?
Oui, les petites boules en verre, quand on secoue, il y a la neige.
Okay.
Les boules à neige. Un verre moutarde. Alors, je dois dire aux gens qui nous écoutent. Les verres à moutarde, il faut éviter de les mettre côté ouvert, vers le haut, dans la nuit. Parce que évidemment, ça fait un appel d'air et évidemment, ça ne ressort jamais.
Avec une branche, c'est pas
avec
utile.
Avec une branche,
oui,
je veux dire une branche d'arbre.
Oui, j'ai un patient qui est arrivé avec une branche. Elle était bien effilée, sa branche. Hein. Bien...
Alors attends, décris-nous la branche.
C'était une branche d'une quarantaine de centimètres. Ça fait 40, ça, hein, d'après mon chéri.
Ouais, à peu près, oui. D'après ce que tu montres, ça fait 40 centimètres. Oui.
Donc, elle était bien effilée au bout, par contre. Elle avait dû donner des coups de râpe.
Il y avait l'écorce encore sur la branche?
Oui, c'était une branche. Hein.
Il y en a qui sont en rut. Hein.
D'accord.
C'était pas du placo.
Uh-huh.
Et il coupait du bois, il est tombé sur la branche. Bon, ça, personne n'y a cru.
Mal tombé, hein. Enfin, ou bien tombé, je ne sais pas.
Surtout quand on coupe une branche à poil, enfin bon, bref, personne n'y a cru. Hein.
SLP, l'émission qui vaut trop le cucu.
Alors, soit on commence un peu dans l'abrupte, mais on s'est dit que pour cette première émission, pour s'interroger sur la révolution sexuelle, c'était peut-être bien de commencer directement vraiment dans le vif du sujet et évoquer des choses voilà, qu'il faut peut-être pas forcément faire ou faire avec d'infinies précautions.
Bah, c'est un peu ça le sujet. Et puis surtout, on s'était interrogé il y a 2 ans et demi sur. Enfin, la question de l'émission, c'était mon trou du cul est-il révolutionnaire ?
Oui.
Parce qu'on s'était dit que cette partie de l'anatomie était quand même une partie taboue et qui pourtant était fort utile et procurait beaucoup de plaisir.
Pouvait procurer beaucoup de plaisir. Oui, oui. Bah, voilà, effectivement, après, c'est une question de.
Oui, on peut être utile et agréable. Et bordel. Oui. J'ai envie de dire bordel, je le dirais beaucoup. C'est amélioratif. Hein.
D'accord, mais c'est parfait alors. Et d'ailleurs, on va voir sur ces deux premières émissions que, en effet, quoi, c'est toujours aussi tabou, mais enfin, il y a une utilisation au niveau du plaisir qui est pas forcément assumée et qui pourtant est là, existe bien et voilà quoi, et que le trou du cul peut en effet, enfin, utiliser son trou du cul pour faire du plaisir, ça peut être révolutionnaire.
C'est révolutionnaire, c'est possible, mais bon, pas n'importe comment. Second inventaire.
Mais il y a des gens, bien hein, qui réalisent pas, qui s'imaginent que ça va passer. Monsieur de la tringle à rideau, il est venu avec l'autre embout de la tringle à rideau pour nous montrer comment c'était, pour qu'on puisse mieux l'enlever. C'est une très bonne idée.
Ah oui, quand même, avec un certain sens pratique.
Oui, quoi. Oui, oui. C'est en soi une très très bonne idée, parce que nous, du coup, on a vu quels instruments on allait utiliser pour lui enlever.
Mm-hmm. Que deviennent les objets qui sont retirés?
Collection personnelle des chirurgiens.
Ça me semblait bien.
Ce n'est pas une légende, il passe à l'autoclave, donc c'est-à-dire une grosse boîte pour désinfecter. Uh-huh. Et après, il y a des vitrines, et ils sont exposés dans les vitrines, comme ça on a.
Sauf les godemichés.
Sauf les godemichés qui
retournent toujours aux propriétaires parce qu'ils les veulent. Donc, c'est super cher.
Donc là, vous êtes en train de nous dire que. Alors, c'est des collections personnelles chez les chirurgiens?
Dans leur cabinet.
Dans leur cabinet.
Dans les blocs, dans les consultoires, dans les bureaux.
Les patients les voient?
Non. C'est pas
utile.
Non, pas toujours. Non.
Mais les externes, les internes.
Ariane, tu as une vitrine chez toi?
Je suis pas infirmière proctologue.
Non, mais je sais pas, l'objet personnel que tu aurais pu utiliser, non?
Dans ton trou du cul.
J'ai pas une vitrine, encore qu'il y a une partie plastique transparente sur ma boîte à sextoy. Ça marche, ça compte ou pas?
Bah,
mais
oui,
bon, c'est caché sous le lit, comme chez beaucoup de gens.
Donc enfin, c'est pas tout à fait visible par n'importe qui.
Ah bah non.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de conseil?
Moi, je trouve qu'elles ont un sens pratique qui est vachement intéressant, en fait. Tu vois, c'est-à-dire elles sont claires, elles sont nettes, elles sont voilà quoi, le coup du verre à moutarde, c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas forcément. Déjà se foutre un verre à moutarde dans le trou du cul, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que du coup, on a tendance à mal le faire. Et après, va chercher des conseils, toi.
Moi, je trouve ça super sympa où elle accueille parce que c'est faites attention, c'est pas vous faites n'importe quoi, vous êtes trop des voilà. Et oui, et puis là, on l'a pas précisé parce qu'il y avait beaucoup de sons dans l'émission donc de l'hiver d'il y a quelques temps.
Oui.
Et moi, j'étais en train de rejoindre l'équipe lors de cette émission et je vous suivais donc à la radio et j'étais sur le chat. Et c'est vrai que je me rappelle, c'était hyper drôle parce qu'elle disait donc pas l'anus et le vagin, parce qu'elle parlait aussi de vagin, bordel. Ouais. J'ai encore dit bordel. Elle disait l'anu et le vagin.
Oui.
Et je trouvais ça trop mignon, quoi. Et c'est vrai que le côté conseil sur le chat aussi, il y a les bons trains, qui a le meilleur lubrifiant.
Elle parlait
sur le plaisir anal aussi.
Ouais.
Pour les filles aussi, d'abord.
Elle parlait beaucoup de lubrifiants, d'ailleurs.
Ouais.
En disant qu'il faut utiliser principalement les lubrifiants qui sont faits pour ça. Pas le beurre, pas l'huile, pas la vaseline,
pas les gras,
ce genre de choses-là. Et même la salive, franchement, sans
mesure pour le coup.
Beaucoup lubrifié.
Oui, c'est pas un truc à modération, la lubrification,
non.
C'est allez-y quoi.
Non, mais elles avaient été parfaites en fait. Elles étaient deux, je me souviens plus de leur prénom, mais tout de suite dans le ton exactement de ce qu'on pouvait attendre, décomplexé complètement et sans jugement. Et ça, c'est parfait, voilà.
Ouais.
Gislain,
on s'en met une couche,
si tu veux, on écoute.
Ah oui, j'avais une petite prévention par rapport au chien. C'est important.
Vas-y.
Le chien a un pénis harpon.
S'il faut savoir que le chien tire sur son pénis à harpon une fois qu'il a fini de copuler. Donc, que ça soit la mamie ou la personne qui veut avoir une expérience par l'anus, il peut avoir une invagination de l'anus, c'est-à-dire que l'anus va sortir des fesses ou le vagin va complètement sortir de là où il était à la base. Donc, ça peut être super, super dangereux.
On parlait de conseils.
Oui.
Hein, on parlait de conseils, voilà, des conseils très pratiques.
Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas que des choses, il y a aussi des êtres vivants, éventuellement, dont il peut être question. Mais alors, pareil, avec une certaine prudence.
Toujours. Il faut toujours être prudent avec ce qu'on se met dans le trou du cul.
Ou c'est dans le vagin.
Ou dans le vagin. C'est pour ça, quand
dans
on
le vagin
dit,
ou dans la nuque.
Quand on dit DTC, dans ton cul, il faut faire gaffe quand même.
C'est clair.
Maintenant, on pourra répondre, oui, mais avec quel lubrifiant, enfin voilà, tu vois.
Petite pause musicale.
Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu les bras, nu sur la lagune. Je marche nu les pieds, nu les jambes, nu sur la lagune. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne voit pas, toutes ces choses que je n'ai plus. Je marche nu les pieds, nu le vent se lève sur la plage d'Ipanema. Je marche nu, tu vois, je n'ai rien sur moi. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne devrait pas avoir sur soi. Et le soleil sur les vagues fait des entrelacs. Et ce n'est pas parce que la nuit tombe que je tomberai à genoux devant toi. J'attendrai que le soleil se lève et le vent avec moi. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux d'adultes, tu vois. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux de brutes, c'est ça. Et les gosses jouent, ils savent déjà l'amour, l'argent, le vent. Ce sont des choses qu'on ne compte pas, des choses qui excitent la vue, des choses qu'on ne donne pas pour rien comme ça. Et le vent se lève sur la plage d'Ipanema.
Oui, Ghislain, c'est génial, Barbara Carlotti.
Tu dévoiles ce qu'on se dit en off maintenant.
L'amour, l'argent, le vent. Moi, je trouve qu'elle a une voix incroyable. Là, les orchestrations sont magnifiques. Ouais. Et c'est son troisième album. Ça s'appelle L'amour, l'argent, le vent, comme le titre qu'on vient de passer. Et je le conseille fortement.
Eh ben, bravo. Merci, merci, merci.
Bon, on revient à des choses plus... j'allais dire essentiel.
Revenons à nos fondements.
À nos fondements.
Et pas que, s'il vous plaît.
Alors, on va écouter, là, dans le prochain son, c'est toi qui l'as préparé, Ariane. Comment ça s'appelle?
Il n'y a pas encore un petit bout d'inventaire pour le fun?
On le fera après.
On le fera après, ouais.
En conclusion. Là, c'est Odile Buisson qui parle. Qui est Odile Buisson?
Alors, vous savez quoi? Le son le dit tout seul. Parce que c'est moi qui ai préparé le son, donc il est super.
Ah ouais.
Enfoiré. Ça veut dire que moi, ceux que j'ai préparés, ils sont nuls, c'est ça?
C'est de la triche et du recyclage. Remarque, moi aussi, c'est du son de France Inter.
Hein. Eh ben alors,
on écoute.
Odile Buisson, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Le plaisir féminin a toujours fait peur. Il a fait peur aux hommes. Mais j'ai découvert qu'il faisait peur aux chercheurs et notamment aux médecins, ce qui est un petit peu plus étrange parce que nous médecins nous savons nous décaler par rapport au corps. Et c'est tellement évident que par exemple en 1998, quand on voit l'arrivée du Viagra sur le marché qui va traiter les troubles de la fonction sexuelle, les troubles de l'érection chez les hommes, eh bien en 1998, on sait à peine comment nous sommes faites, puisque une équipe australienne a refait des dissections de clitoris et s'est aperçue que toutes les descriptions antérieures étaient complètement erronées. Donc 98, c'est très tôt. La première résonance magnétique nucléaire du clitoris, la première imagerie du clitoris, c'est 2005. Et 2008, c'est l'échographie que nous avons fait avec avec Pierre Foldès. Donc comme vous voyez, c'est tout à fait récent.
Ça fait à peine une quinzaine d'années qu'on connaît l'anatomie sexuelle des femmes.
Voilà. Donc un petit peu, quand on a commencé à publier dans les articles américains, enfin dans les journaux américains, je me suis dit, nous ne sommes pas universitaires, hein, nous sommes médecins spécialistes. Je me suis dit, on va pas pouvoir tenir longtemps comme ça, parce que les recherches, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est de l'assurance, c'est des sous. Et je me suis mise à chercher des universitaires, notamment des patrons de gynécologie et d'obstétrique qui puissent appuyer nos recherches ou nous aider. Et là, que n'ai-je pas entendu? J'ai tout entendu. On m'a dit, écoute, fous-moi la paix, ton clitoris, c'est pas là que ça se passe, l'orgasme, c'est cérébral. Alors, à croire que l'entrejambe, c'est de la décoration, vous voyez. Ensuite, on me dit, mais madame, c'est cérébral, qu'est-ce que vous allez chercher de l'anatomie clitoridienne, c'est ridicule.
Mais les femmes ne sont pas tellement plus convaincues, à vous lire.
Mais c'est-à-dire que les femmes sont un petit peu formatées à la pensée des hommes. Nous, on est biberonnés au patriarcat. Et vous savez, les médecins sont très formatés. Moi-même, j'étais complètement formatée. Si je n'avais pas eu l'éclairage de Dr Foldès, qui a une grande expérience humanitaire.
Spécialiste de la reconstruction après
du clitoris, qui a opéré 3000 clitoris. Lui était un petit peu alerté parce qu'en fait, il faisait de l'humanitaire. Il connaissait l'Afrique, les Africains, et puis la détresse africaine. Et les femmes, quand elles venaient le voir et disaient « j'ai mal », ils ne savaient pas réparer. Quand il s'est plongé pour savoir, dans les traités d'anatomie, pour savoir comment réparer les lésions épouvantables qu'il pouvait voir, et ben il ne trouvait pas de traité. Mmh. Et moi, je me souviens très bien, quelquefois, il arrivait que en médecine, aux urgences, des femmes tombent sur leur entrejambe contre un coin de tabouret ou sur la selle de leur cheval. Et bien, les lésions clitoridiennes étaient complètement négligées. Parce que tout simplement, on ne connaissait pas. Non, on mettait compresse sèche, antalgique et on attendait. Oui. Vous imaginez bien que si un monsieur se prend le sexe dans la braguette, on lui fera pas ça. Il y avait plus d'une centaine.
Vous évoquez les nombreuses techniques pour aider les messieurs dans ces cas particulièrement délicats. Et vous reprochez à la médecine de ne pas s'occuper médicalement de la sexualité féminine.
Oui, parce que Gérard Sfang, le sexologue, disait on ne copule pas avec son cerveau. Alors je suis bien d'accord, on ne jouit pas avec son clitoris, un phénomène psychique, cérébral. Mais ne pas faire de la science, c'est préjuger. Je ne dis pas qu'on va trouver quelque chose, mais je trouve qu'au moins, considérer le clitoris comme un organe à part entière et comme sa contrepartie masculine qui est le pénis, c'est correct. C'est plus que correct. Et négliger en disant « mais non, c'est cérébral », je ne trouve pas ça bien. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a un trouble de l'érection, on lui donnera sa pilule bleue. On lui dira pas « mais allez, décontractez-vous, allez voir le psychologue ». Si une femme vient vous consulter pour dire « j'ai des difficultés », qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez voir le psychologue et vous négligez un petit peu. Alors je ne dis pas la sexualité ne se réduit pas au corps, c'est une relation interpersonnelle, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je ne veux pas opposer la psyché au corps.
Alors, je rappelle qu'on s'interroge sur la révolution sexuelle, est-ce qu'elle a lieu
et
ou pas.
Et on vient d'entendre donc Odile Buisson, gynécologue obstétricienne, interrogée par Audrey Pulvar sur France Inter au moment de la sortie d'un livre il y a à peu près un an. C'est passé à peu près un an. Mmh.
Donc là, sur cette première mission, on s'est placé plus sur d'un point de vue médical, on va dire, puisqu'on a l'interview de cette obstétricienne, on a entendu et on entendra encore deux infirmières proctologues. Là, on se rend compte dans cette intervention que quand même, il y a des différences de traitement énormes entre les hommes et les femmes.
Ah oui, et puis en plus, comme le thème du mois qu'on s'est donné, c'est la révolution sexuelle a-t-elle eu lieu ? Si elle a eu lieu comme censément dans les années 70, le déclenchement des recherches médicales sur l'appareil à plaisir féminin, c'est hyper tard après c'est les années 70.
Il
quoi,
est beaucoup c'est... plus récent. Hein.
Voilà, et c'est, voilà,
et il fait débat encore, décrit, apparemment.
Elle décrit très très bien la difficulté de trouver des financements et d'accepter que le fait de poser la question est simplement un à-propos. Quoi.
Non, mais en fait, c'est vachement intéressant de se rendre compte que de la différence voilà, entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que... Les mecs, c'est leur trou du cul qui est révolutionnaire, c'est-à-dire c'est leur truc qui est, c'est le truc tabou, etc. Voilà, mais c'est quelque chose, comment on va dire, qui la différence avec les filles, parce que c'est un truc essentiel chez elles. Enfin, tu vois, le clito chez une nana, et ça, même on l'a pas exploré encore. Ouais, tu vois, on le connaît pas, on veut pas le faire, etc.
Là,
je trouve que ça va beaucoup plus loin.
Ça veut dire que
ça paraît léger, tu vois, les tabous des garçons sur leur trou du cul. Tu vois, je trouve, comparé à...
Mais ça, après, ça dépend aussi de ton appétence et de ta curiosité personnelle à l'endroit de ton propre corps et puis aussi des espaces sociaux intermédiaires dans lesquels tu évolues. Mais oui, quand tu regardes par rapport à la société ordinaire, on va dire, la sexualité féminine en elle-même est encore quelque chose de marginalisé, d'invisibilisé.
C'est ça, pas forcément souvent, totalement tabou, mais en tous les cas, c'est pas un sujet de préoccupation.
Le désir, alors moi, franchement, le désir féminin, pour moi, c'est encore tabou. Mm-hmm. Le désir tel que je l'entends, moi, pas ouais. Le désir d'être rempli, comblé par un mâle hétérosexuel, tu vois
rempli,
ce que je veux dire ?
Comblé.
J'aime le terme rempli.
Bah oui, mais c'est franchement, voilà, quand tu dis la différence entre les hommes et les femmes, pour moi, elle est pas d'abord d'ordre anatomique, elle est d'abord de l'ordre du traitement social. Et la sexualité féminine, si elle existe dans la société, c'est encore comme le négatif de la sexualité masculine.
Oui, bien sûr.
On sert de trou pour la bite, quoi.
Ouais. Mais c'est vachement intéressant, justement, de voir que même aujourd'hui, il est difficile de faire juste une radio, un IRM, un scanner d'un clitoris. Enfin, tu vois, je trouve ça incroyable. Ouais. On fait des scanners de tout et n'importe quoi aujourd'hui, des IRM et tout ça. Et voilà, quoi, il a fallu attendre 2008.
Et on n'arrivait pas à avoir les sous. Et même par rapport au protocole de recherche, les gens qui ont passé l'échographie, parce que le but, c'était de faire une échographie du clitoris bandé d'un clitoris lors d'un rapport sexuel. Et ce sont des proches, en fait, des médecins qui se sont prêtés... au jeu pour faire cette imagerie-là, il n'y a pas eu de protocole médical encadré éthiquement normalement, en fait. Parce que, tout simplement, il n'y avait pas le champ libre pour ça, quoi.
D'accord. On retourne voir nos infirmières proctologues, ça vous dit ?
Ouais, une conclusion sympathique.
Après, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais il faut se faire du bien intelligemment.
Sans se faire mal.
Voilà, il faut éviter de se faire mal,
lubrifier.
Rien n'est forcément tabou et personne ne sera jamais jugé de ses pratiques. Après, il faut avoir des pratiques aussi intelligentes. Un corps, on n'en a qu'un, et un anus, on n'en a qu'un aussi. Ouais. Et franchement, c'est pas une partie, c'est pas la partie préférée de notre corps, mais elle est quand même bien nécessaire parce que quand on n'a plus de trou du cul,
le caca, il faut bien qu'il sorte.
Hein. Voilà.
Voilà.
Et voilà. Moi, c'est leur côté pratique et concret que j'aime bien.
Oui, moi, je trouve.
Quand on n'a plus de trou du cul, il faut que le caca y sorte. Et après, encore dans le son, elle parle de stomie, tu sais, les poches et tout
oui,
ça.
Oui, je me souviens.
Elles expliquent un peu comment c'est. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il faut prendre soin de son trou du cul.
Pour en revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, je trouve fascinant aussi que dans les termes qu'on utilise dans la psychanalyse, par exemple, on parle de continent noir pour parler de la sexualité féminine. Qu'est-ce
alors,
que tu en penses ?
Mais tu sais quoi ? C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui en ont marre qu'on dit ça. Et il y a un mouvement pour dire qu'en fait, c'est la sexualité masculine qu'on connaît mal. Finalement, le côté féminin, ça fait tellement de temps qu'on parle de ce continent noir, qu'on fait des traités et tout ça. En fait, la sexualité qu'on connaît mal, c'est la sexualité masculine. Je t'assure hein, que ce mouvement, je l'ai rencontré. Enfin, moi, je parle beaucoup de sexe quand même, parce que politiquement, je pense que c'est très important. Et j'écoute aussi des émissions à la radio qui traitent de ça, et je l'ai entendu à plusieurs reprises. Donc, je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs ouvrages qui sont sortis là ces derniers mois, ce printemps 2012, mais je pense que ça doit être le cas parce que je l'ai entendu plusieurs fois sur les radios nationales. Mmh. Et donc, oui, là, ce qu'on a vu d'un point de vue médical, c'est que clairement, au niveau appareillage biologique, on connaît beaucoup mieux, ou en tout cas, les connaissances sont beaucoup mieux partagées concernant l'appareil masculin.
Oui.
Et on l'a déjà vu du côté littéraire, en fait. Mm-hmm. On s'est rendu compte qu'au niveau du vocabulaire, pour décrire, etc., tout le monde connaît, et moi y compris, alors que j'ai très peu d'intérêt pour ça, je peux parler de glands, de décalotés, le frein, les
roubignoles, les couilles. Tu maîtrises le vocabulaire de la sexualité masculine.
Bah de la description, en tout cas,
de l'appareil génital.
Voilà. Alors que je rencontre beaucoup de... Ça m'est encore arrivé d'ailleurs, il y a moins d'un mois, d'apprendre à des filles ce que c'était les nymphes. Et ou la cyprine.
Et alors à des mecs, je te dis pas. Hein.
Surtout à des PD. Mais heureusement, heureusement.
Ah, mais il y a quand même la chanson de Colette Renard. Moi, oui, j'ai enrichi mon vocabulaire quand même.
Oui, c'est vrai. En plus,
elle, mais elle ne dit pas demoiselle. Cyprine
mais
et elle ne dit pas
nymphe. De sexe. Elle parle de. C'est pas des expressions sur le sexe féminin. C'est des expressions qui expliquent, enfin, sur baiser en fait.
Oui,
c'est...
tout à fait. Tu as raison.
Et sur la sexualité.
Ouais, mais elle parle quand même. Ce sont des métaphores de du clitoris, de la vulve, du vagin, quoi. Je me fais farcir la motelette.
La motelette.
Je me fais Béliner le joyau. Je me dis, attends, c'est que des trucs comme ça. Oui, quoi.
Bah, j'adore. Mmh. Et sinon, sexualité masculine, en fait, on connaît peut-être comment ça se passe au niveau de la bite, mais il n'y a pas que la bite, quoi. Et qu'on a, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a tendance à parler, à réduire, en fait, que à ça, quoi. Et il y a plein d'autres parties érogènes dont on parle pas obligatoirement, elle est vachement...
C'est vrai que la sexualité oui. masculine, vois, particulièrement chez les
mais sur la pénétration,
mais chez les homos aussi, effectivement, l'acte suprême, c'est et ça reste la pénétration, alors ouais, qu'il y a plein de façons de se faire plaisir autrement que en passant nécessairement par une pénétration.
Puisqu'on est dans le domaine du regard médical, il s'agit aussi de l'acquisition des connaissances qui est encore liée à la procréation. Et oui, on est sur le regard médical, donc c'est des problèmes fonctionnels qui sont explorés et qui regardent, oui, tout le côté procréation. Puis après, c'est le côté, oui, fonctionnel, donc comme on disait, la pilule bleue, ceci, cela, faut que ça marche, quoi. Ouais. Puisqu'on est aussi dans une société où on a un espèce de culte de l'efficacité et de la
performance.
Merci, je trouvais plus mon mot. Merci, Ghislain. Oh là là. Mais chez les femmes aussi, il y a plein d'autres zones érogènes que
mais on connaît déjà pas la zone du sexe, donc comment tu veux qu'on connaisse les autres? Mais on en connaît peut-être un peu plus, tu vois,
les
seins sont considérés comme zones érogènes.
Genre les tétons chez les mecs, attends, s'il te plaît.
Ah ouais, mais on n'en parle pas beaucoup.
Non, on n'en parle pas parce que l'apprentissage de la sexualité, à l'école, c'est les planches anatomiques qui regardent la procréation, et dans les films de cul, c'est la pénétration.
Oui,
parce qu'on est sur des trucs, ouais, une génitalité, un truc un peu... Alors que ce qu'évoque aussi, dit Buisson dans le son qu'on a entendu tout à l'heure, c'est aussi une relation, c'est deux corps entiers, c'est pas juste l'entrejambe, quoi.
Tout à fait, Ariane.
On a fait le tour de la rondelle, je pense.
Je sais pas si on a fait le tour, mais en tous les cas, on a dit un certain nombre de choses. C'est-à-dire que le tour de la rondelle, oui, mais
on pourra le refaire.
C'est ça, on peut le faire infiniment, le tour de la rondelle.
Ah,
à chaque fois, on découvre de nouveaux paysages.
Non, mais en plus, ça va continuer la semaine prochaine, non ?
Oui.
On va de nouveau parler plaisir anal et plaisir... on parle des filles aussi, non ?
Ouais, point P, point G. C'est de la géométrie.
Alors, cette semaine, c'était plutôt l'angle médical. Et forcément, puisqu'on ne peut pas faire l'impasse sur le monde dans lequel on vit. Donc, la semaine prochaine, c'est plutôt sous l'aspect commercial.
Voilà.
On va parler sex shop et autres.
Voilà, mais pour redresser la France, il faut bien sûr relancer la consommation.
Au revoir. Consommation.